dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et d'abord, le rappel du thème du grand rendez-vous de ce soir. Nos invités débattront des tensions qui persistent en Guinée avec l'inculpation lundi de certaines figures de l'opposition. Elles qui contestent toujours la réélection de Alpha Condé, dont elles jugent le troisième quinquennat illégal. Mais décryptons d'abord cet appel à la réconciliation lancé par le président béninois Patrice Talon à l'endroit de son prédécesseur Thomas Boni Yayi, son ami avec lequel il est en froid depuis quelques années. On écoute.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Mathias Umpe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society à Dakar au Sénégal. Patrice Talon a entamé le 12 novembre dernier une tournée dans les 54 communes du Bénin. Il serait déjà en campagne pour la présidentielle de l'année prochaine?
C'est difficile de dissocier cette tournée, n'est-ce pas, des élections présidentielles qui sont en vue. Même si, jusque-là, il n'a pas encore dit s'il veut être candidat ou non. La deuxième chose, il faut dire que contrairement à la plupart des présidents qu'on a connus par le passé, le président Talon ne nous a pas habitués à ce genre de tournée. Et donc, depuis qu'il a été élu, je crois que c'est la première fois, ce qui augmente encore les spéculations par rapport aux élections à la présidentielle de l'année prochaine.
Est-ce que des doutes subsisteraient encore sur sa candidature à un second mandat?
Dans ces circonstances, c'est difficile à dire. Ce que je sais, c'est que légalement, il en a le droit parce que la Constitution chez nous prévoit deux mandats et seulement deux mandats, n'est-ce pas, par président. Et donc, finissant son premier mandat, de mon point de vue, légalement, il n'y a pas d'obstacle.
Sauf qu'il avait promis d'en faire un.
Voilà. Il avait promis à plusieurs occasions et dans plusieurs circonstances de ne faire qu'un seul mandat et qu'un seul mandat devrait lui suffire, n'est-ce pas, pour faire ce pourquoi il a voulu être président de la République. Et donc, on attend de voir s'il tiendra parole ou non.
Son ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, passé depuis dans l'opposition, affirme à propos de cette tournée du président Talon qu'elle est en réalité, je cite, « une vaine tentative visant à l'amnésie de la forfaiture de destruction du régime démocratique du Bénin ». Que vous inspirent ces propos?
Bon, je les prends d'abord comme des propos d'acteurs politiques. Vous savez très bien la manière dont les acteurs politiques se caractérisent les uns des autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai que sous le président Talon, on ne peut pas dire que la démocratie béninoise s'est consolidée. Je dirais même le contraire. Je crois que sur le plan démocratique, sur le plan des libertés et droits fondamentaux des citoyens, le Bénin a connu un recul. Et donc, que le président Talon profite de cette occasion pour tenter d'améliorer son image de ce point de vue.
Et de reconquérir peut-être le cœur des Béninois?
Absolument. De ce point de vue, je pense que c'est possible par rapport à la démocratie et aux droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Et en lançant de Parakou, localité du nord du Bénin, dite favorable à l'ancien président Yayi Boni, son appel à la réconciliation avec ce dernier, quel est le message que Patrice Talon, d'après vous, voulait faire passer?
Bon, je pense qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut retenir. Vous savez très bien que le président Boni Yayi et le président Patrice Talon étaient des amis. Je crois que le président Patrice Talon, en tant qu'homme d'affaires, était l'un des soutiens, des principaux soutiens de Yayi de l'élection en 2006. Voilà, soutien financier de 2006 jusqu'à 2012. C'est-à-dire que pendant 7 ans, des 10 ans de présidence de Yayi, ils étaient des amis. Après, ils se sont
brouillés. Il y a eu l'affaire d'empoisonnement,
voilà, l'affaire d'empoisonnement, etc. Et ensuite, ils se sont réconciliés. Parce qu'après l'élection de Patrice Talon, les deux se sont retrouvés en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara et le président Faure, où à la sortie de la rencontre, on a dit « bon, on se laisse tranquille les uns les autres, etc. » Ça, c'est la deuxième chose qu'ils ont dit, qu'entre les deux, on est maintenant habitué à ce genre de relation en accordéon, où vous avez le sentiment que ça va et puis ça ne va plus et puis ça va, quoi. Troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'au fond, le président Talon ne supporte pas que le président Yayi mène des activités politiques directes. Et je crois qu'il voudrait que le président Yahi Boni se comporte juste comme un ancien président qui s'éloigne, n'est-ce pas, de la gestion de la politique.
Et qui se réserve de commenter ses actions.
Voilà, de commenter et de prendre des positions par rapport à ses actions. Je pense que c'est le vrai fond de la question.
Et cet appel à la réconciliation n'est pas sincère?
Ça ne pourrait marcher que si, comme je le disais tout à l'heure, le président Yahi acceptait, n'est-ce pas, les conditions du président Talon, à savoir ne plus se mêler de la politique au quotidien. Ce que j'ai de la peine à croire, parce que se mêler de la politique au quotidien semble être de la nature du président Boni Yahi. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des acteurs qui ont le plus de capacité de mobilisation populaire, je veux dire, au Bénin aujourd'hui. Et donc, je pense que le président Talon est un peu gêné par ça. Et pour moi, s'il y a un obstacle sur le chemin, s'il pourrait avoir un obstacle sur le chemin, n'est-ce pas, de cette tentative de réconciliation, ça va être à ce niveau. Et il faut ajouter une dernière chose. Vous voyez très bien où est-ce que le président Talon a parlé, n'est-ce pas, a lancé cet appel à la réconciliation. C'est à Parakou. Et je crois qu'un peu avant Parakou, à Tchaourou, qui est, n'est-ce pas, la région d'origine du président Yahi. J'imagine que à la rencontre avec les
autorités traditionnelles,
les leaders d'opinion de cette région, voilà, elles ont dû soulever cette question et soulever la nécessité, n'est-ce pas, que le président Yahi se sente à l'aise et puisse circuler librement dans le pays.
Merci beaucoup, Mathias Oumpé.
C'est moi.
Je rappelle que vous êtes administrateur du programme de gouvernance politique à Ossiwa, Open Society, à Dakar, au Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Notre débat ce soir, c'est sur la Guinée. Comment sortir de cette crise post-électorale qui a déjà fait des dizaines de morts? Et pour en débattre, nous avons trois invités. Amidé Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de l'opposant Seluda Alain Diallo, qui nous rejoindra un peu plus tard. Il a eu un empêchement de dernière minute. Mais pour l'instant, nous avons déjà en ligne deux de nos trois invités. Kaba Mamadi, secrétaire politique de la coordination RPG Europe, parti au pouvoir. Monsieur Mamadi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bienvenue également à vous, Monsieur Malal Diallo, vice-président et président par intérim de l'OGDH. Je pense qu'on devrait garder simplement président par intérim de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Bonsoir, Monsieur Diallo.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et j'espère que vous aussi, vous allez très bien à Conakry. Nous allons commencer avec vous, hein, Monsieur Diallo. Dites-nous, il y a une bataille sur le bilan des victimes humaines des violences post-électorales. Combien en avez-vous recensé? Est-ce qu'on peut déjà clarifier ce point?
Bon, je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Je sais que le parti l'UFDG a enregistré plus de 40 morts. Le principal parti d'opposition a enregistré plus de 40 morts et des arrestations. Et beaucoup d'exactions.
Le ministre de la Justice parlait de, je crois, 263 personnes arrêtées.
Bon, lui, il doit être au courant. Moi, je n'ai pas le nombre exact d'arrêtés, mais je sais que il y a des arrestations parce que même la nuit, on peut venir débarquer chez vous, ouvrir les portes et arrêter les gens.
D'accord. Donc, vous parlez de 40 morts parmi les militants de l'UFDG, le principal parti
d'opposition.
D'accord. Voilà. Et qu'en est-il des forces de l'ordre? Parce que les autorités parlaient aussi des policiers, des membres des forces de sécurité tués.
Oui, il y en a eu. Il y a eu des morts parmi les forces de l'ordre.
D'accord. Est-ce que vous confirmez ce bilan, monsieur Mamadi? De 40 personnes tuées au sein de l'opposition, membres de l'opposition.
Bonsoir à tous vos nombreux auditeurs. Comme l'a dit M. Diallo, peut-être qu'il a suffisamment d'informations par rapport à ce sujet-là. Mais il est difficile de dire que il y a eu plus de 40 morts au niveau de l'opposition
parce que souvent, nous avons tendance à, après les manifestations, nous constatons qu'il y a des morts après les manifestations. Donc souvent, ils ont tendance à comptabiliser cela comme des personnes qui ont été décédées pendant, pendant le cours, le bon cours des manifestations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait comprendre que ce n'est pas une manifestation classique. Nous sommes ici en face d'une rébellion qui ne dit pas son nom.
Pardonnez-moi, monsieur Mamadi, avant d'aller à ce que vous qualifiez de rébellion, vous dites que vous accusez l'UFDG d'avoir gonflé les chiffres, mais vous-même donc, au sein du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, combien de personnes de décès avez-vous enregistré? Puisque je parlais de il parle de 40 morts. En fin octobre, la télévision publique parlait d'une vingtaine de morts et de 243 interpellations confirmées par le ministre de la Justice, Maureen Doumbouya. Vous, quel est votre bilan?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Certains morts ont été interpellés. Ceux qui ont été interpellés, la plupart ont été interpellés sur place. Parce qu'il faut dire qu'il y a des jeunes qui ont été armés des machettes, de coucou, même d'armes à feu, et qui se sont appris aux paisibles citoyens. Ils sont rentrés dans les rues, ils ont violenté des personnes, ils ont mis le feu à la maison, aux concessions des paisibles citoyens. Donc là, c'est ce que je disais, que c'est une sorte d'insurrection qui ne dit pas son nom. Et qu'est-ce qu'ils font? Et à partir du moment où nous entrons dans ce chemin-là, je crois que là, ce n'est plus la politique. Raison pour laquelle le gouvernement a pris toutes les mesures pour poste de l'ordre et c'est de.
Ce qui justifie des enlèvements de jeunes, comme vient de le décrire le président par intérim de l'EGDH, M. Diallo, cela justifie-t-il que les forces de l'ordre, les policiers entrent dans les maisons, enlèvent des citoyens?
Non, il n'y a pas eu d'enlèvement de citoyens.
C'est ce que vient de nous dire, M. Diallo.
Arrêté, M. Diallo. Là, peut-être, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire ça, tout cela. Mais je ne pense pas, les forces de l'ordre ne sont pas entrées dans des concessions pour les citoyens. Non. Ceux qui ont été arrêtés, je disais, madame, la plupart ont été pris en flagrant délit. C'était des personnes qui sont des jeunes, qui sont des jeunes de 12, 16 à 18 ans, hein, qui sont armés de machettes, de coupes, d'armes à feu, hein, même des armes blanches. Donc, ce sont des jeunes qui étaient sur l'axe Bamako-Kosa et même qui sont repliés sur l'autoroute, ce sont ces jeunes-là qui étaient arrêtés par l'ordre. Et ça n'était plus, c'était une manifestation qui n'avait aucun rapport avec des manifestations classiques, comme dans certains pays développés. C'est-à-dire que là, quand on fait une manifestation, il y a une itinéraire conçue et là, on ne peut pas voir des manifestants, des jeunes qui sont et qui ont des armes blanches. Des armes à feu qui entrent dans des concessions, qui détruisent des voitures, qui détruisent des bus et qui s'attaquent même à des convois. Ils attaquent un convoi ferroviaire de transport de choses de bauxite où il y a certaines forces de l'ordre ont perdu là.
Merci.
Ils se sont attaqués à des policiers à partir du moment où des paisibles.
Excusez-moi, monsieur Mamadi, vous décrivez tout cela, mais vous n'avez pas été en mesure de nous dire quel est le bilan humain de ces violences. Et vous n'avez pas non plus. Vous avez contesté le chiffre avancé par monsieur Diallo sans apporter des chiffres contraires. Je vais revenir à vous, monsieur Diallo. Donc, le résultat de ces violences, de cette contestation post-électorale, parce qu'il faut rappeler que ces tensions sont consécutives à la contestation, à la forte contestation de la réélection du professeur Alpha Condé pour un troisième mandat. Alors, monsieur Diallo, 5 membres de l'opposition arrêtés la semaine dernière ont été inculpés. Est-ce que vous avez pu avoir accès à eux? Quel est leur état de santé aujourd'hui?
Bon, nos avocats ont accès à eux. Ils ont été... Bon, Chérif Ba, qui était gouverneur de la Banque centrale, puisque M. Kaba dit que les gens ne rentrent pas dans les concessions, Chérif Ba, on est venu chez lui, on a brutalisé la famille et on l'a arrêté manu militari. Au lieu de le convoquer en bonne et due forme, comme on ferait une bonne justice, c'est des gens qui sont venus chez lui. je crois, cagoulé pour un peu brutaliser sa femme, et, etc. Tout ça, c'est des détails, mais il a été amené manu militari. Donc, j'apprends aujourd'hui que ils ont été déférés à la maison centrale. Ça, c'est une information qui m'a été donnée par les avocats.
Maître Beyagovi a clairement confirmé leur inculpation et leur détention.
Oui, voilà. Mais il faut noter aussi que la particularité des personnes arrêtées, c'est qu'elles sont toutes soit de l'UFDG, soit membres du Front National de Défense de la Constitution.
Le FNDC.
Le FNDC, qui est comme particulièrement contre le troisième mandat.
Donc vous êtes en train de nous dire, M. Diallo, que c'est comme si les membres de l'opposition et du FNDC sont pourchassés?
Oui, ils sont même harcelés.
Merci. Monsieur Mamadi?
Oui.
Vous venez d'entendre un avis contraire de la part de M. Diallo, oui, qui réaffirme, oui, et qui réaffirme ce qu'il a dit au départ, qu'il y a comme une sorte de... Il y a un harcèlement carrément de l'opposition. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle la Guinée vit avec la crise post-électorale, que c'est la réponse appropriée à la situation?
Mais moi, je pense que c'est la lecture que M. Diallo fait de ce qui n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on a arrêté sur officiellement à parler de 20 morts, officiellement. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, il y a les forces de l'ordre qui sont là. Mais j'ai dit que cette violence aujourd'hui découle du fait que le chef de l'opposition, M. Sylvain Dalein Diallo, n'a pas reconnu les sorties des urnes, le verdict sorti des urnes. Et à partir de cet instant, les manifestations dans les rues ont commencé. Donc,
D'où la décision des autorités de l'y contraindre par tous les moyens, de le forcer par tous les moyens à accepter la victoire du professeur Alpha Condé?
Non. Si on devait contraindre M. Sylvain Dalein, les autorités savent où se trouve M. Sylvain Dalein Diallo, on pouvait aller l'arrêter et puis voilà, le traîner devant la justice.
Quel est l'objectif de l'usage excessif selon l'opposition de la force et que vient également de confirmer M. Diallo?
C'est la lecture qu'ils font de la situation. Monsieur Chefba a reçu une convocation comme Ousmane Gawal et d'autres. Mais le problème, c'est lorsque vous recevez une convocation, vous devez vous rendre à un poste de police pour répondre d'une convocation. Et que vous, c'est tout à fait normal que les forces de l'ordre viennent. Le cas avec Monsieur Chérif, cas avec Étienne Surpogui, et c'est le cas avec bon nombre de personnes. Donc, même aujourd'hui, on parle qu'ils sont recherchés, qu'ils ne se sont pas rendus, mais une force est à la loi. C'est sûr que lorsque ceux-là seront interpellés, la justice va faire son travail.
Mais je vous demandais, est-ce que ça, c'est la réponse appropriée compte tenu pour régler la situation actuelle?
Madame, ça n'a rien à voir avec la situation. Ceux qui sont poursuivis aujourd'hui ne sont pas poursuivis pour leur appartenance à un quelconque parti politique. Ils sont poursuivis justement pour des questions d'ordre.
Merci beaucoup, monsieur Mamadi. Nous sommes vraiment navrés avec cette ligne qui n'est pas très audible. On espère que dans la seconde partie de ce grand rendez-vous, on aura une liaison meilleure. Bonsoir, Édouard Béranger-Ning.
Bonsoir, Liliane. Bonsoir à tous.
Et comme chaque soir, question des auditeurs. Et
tout de suite après la vue.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons de la Guinée. Comment apaiser le climat politique après l'investiture de Alpha Condé? Et nous posons la question aux acteurs politiques eux-mêmes. Et ils sont trois sur ce plateau ce soir. Il s'agit de Karamo Nabé, coordonnateur du RPG, le parti au pouvoir en Guinée. Il est en ligne de Conakry. Également en ligne de Conakry, Soumeilou Konaté, membre du bureau exécutif et coordonnateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG de l'opposant Seloud Alain Diallo. Enfin, Sékou Keleti Sila, membre de l'UFR en France. Nous vous redonnons la parole, monsieur Sékou Keleti, parce que nous veillons à ce qu'il y ait l'équilibre de temps de parole. Alors, vous avez affirmé avant la pause que Alpha Condé n'a volé les élections depuis 2010, qu'il n'a jamais gagné un scrutin, et vous affirmez également qu'il a un couteau derrière la main tendue à l'opposition. Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous, pour donner la preuve de sa bonne foi, puisque lui, il dit qu'il faut aller vers l'avenir et tourner la page?
Oui, mais madame, il n'y a pas de bonne foi chez Alpha Condé. Tout le monde le sait, les Guinéens le savent. Il n'y a pas de bonne foi chez Alpha Condé. Alpha Condé même que lui-même.
Mais quand vous dites qu'il n'a pas de bonne foi, cela veut dire qu'il n'y aura pas, il n'y a pas possibilité de dialogue. Vous ne lui accordez aucun bénéfice du doute?
Mais c'est une peine perdue. Nous, on ne reconnaît pas cette élection. Déjà, la première des choses, on n'a jamais accepté. Et les élections législatives, on n'a pas accepté. C'est pourquoi Sidya Touré a pris sa position de neutralité, de ne pas assister à cette mascarade d'élection. Donc, cette main tendue, nous voyons un couteau derrière.
Sidya Touré, qui à un moment donné s'était rapproché aussi du président de la République, qu'il avait nommé son haut représentant.
Mais écoutez, madame, cette histoire, c'est dans les oubliettes maintenant.
N'empêche que c'est un fait.
On ne considère plus parce que Sidya Touré lui a aidé, il voulait l'aider pour avancer notre pays. Parce qu'il a l'amour de notre pays, il a l'amour d'avancer notre pays. Mais Alpha Condé, non, ce n'est pas la peine de travailler avec lui.
D'accord. Merci pour votre position, monsieur Sila Keleti. Monsieur Karamo, quand vous écoutez à la fois l'UFDG et l'UFR, qui sont quand même des principaux partis d'opposition, rejeter l'idée même de ce dialogue, rejeter la main tendue du président Alpha Condé qui souhaite pourtant passer, oublier le passé. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir peut-être trouver des émissaires en dehors de la Guinée pour provoquer ce déclic, pour aller vraiment à ce dialogue? Qu'est-ce que cela vous inspire, cette position radicale des opposants?
Oui, merci madame. Comment dirais-je? Vous savez, en fait, la situation en Côte d'Ivoire était pire que la situation en Guinée. Mais ces gens-là se sont assis et ils ont commencé à dialoguer. La différence entre les acteurs politiques guinéens et ceux de la Côte d'Ivoire, c'est que ceux de la Côte d'Ivoire ont parfois une volonté expresse de mettre, en tout cas, en lumière l'intérêt suprême de la République. La seule véritable personne avec qui le président Alpha Condé ne parvient pas à dialoguer, c'est M. Seloud Alain Diallo. Parce que je vous rappelle en tout cas qu'il y a eu beaucoup d'opposants avec qui le dialogue a été entamé et qui sont même maintenant du côté de la mouvance présidentielle. Je parle d'Aboubacar Sylla, je parle
que de... Que vous avez débauché de l'UFDG?
Oui, oui, mais tout ça par le dialogue. Parce qu'il y a un moment, ils ont effectivement compris. Ils n'étaient pas tous de l'UFDG. Moutar Diallo, par exemple, était des NFD. Aboubacar Sylla avait son propre parti. Et donc aujourd'hui, M. Sidya Touré, dont on est en train de parler, et comment dirais-je, a été lui-même un moment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au représentant du président de la République. C'est pour vous dire comme une fois, le président, en tout cas, est un homme du dialogue. Mais vous savez, pour dialoguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une volonté. Qu'est-ce qu'il faut vraiment proposer à Seloud Alain Diallo pour qu'il accepte le dialogue? Vous savez, la Guinée ne peut pas continuer.
Il souhaite que commission internationale puisse procéder au recomptage des bulletins pour lui rendre, dit-il, sa victoire, parce qu'il estime que c'est lui qui a gagné. Je crois bien que c'est ce que son représentant a dit, c'est le préalable pour amorcer la discussion avec le pouvoir.
Oui, mais madame, vous savez, comment dirais-je, la Guinée ne peut pas continuer à être sous la tutelle, en fait, de la communauté internationale. Rappelez-vous qu'en 2010, il a fallu qu'il y ait un président de la CENI qui soit malien pour que Seloud Alain accepte finalement les résultats. Il ne les a même pas acceptés, malgré tout ça. La communauté internationale ne peut pas continuer à régler les affaires de la Guinée. La Guinée est un pays souverain. Il y a des lois en Guinée, il y a des juridictions qui essayent en tout cas de juger les différents contentieux. Et ces juridictions-là se sont prononcées et c'est ce que la loi elle-même dit. Et quand on est démocrate, on est censé respecter cette loi. Donc aujourd'hui, M. Sélou Dalein Diallo, qui s'est précipité en se déclarant vainqueur, en omettant toute une région naturelle, en fait, toute la Haute-Guinée, et aussi en comptant pratiquement 12 candidats alors qu'il n'y en avait que 11, en faisant voter même un pays fictif qui est la Guinée-Bissau, tout le monde comprend aujourd'hui que ce monsieur n'a aucune volonté de dialoguer et de mettre l'intérêt suprême de la République de Guinée, comment dirais-je, en avant. C'est pour cela que c'est assez dur aujourd'hui et difficile pour lui, en tout cas d'être un homme de dialogue. Ces militants, comme je vous le disais tout à l'heure, ont même compris. La plupart de ces militants ont compris que l'intérêt de la Guinée prime sur l'intérêt supérieur de Sélou Dalein Diallo. Puisque de toute façon, Sélou Dalein a été, comment dirais-je, premier ministre pendant près de 14 ans ici dans ce pays. Tout le monde connaît son bilan. Et aujourd'hui, ce qui l'importe, c'est en fait sa personnalité. Ce n'est pas l'intérêt suprême de la République de Guinée.
Merci, M. Nabé. M. Konaté, vous êtes là?
Bien, je suis là.
D'accord. Est-ce que l'opposition aussi guinéenne ne manque pas quelquefois de cohérence, de sincérité? L'opposition à qui on reproche beaucoup de faire des calculs politiques personnels, est-ce que tout ça aussi n'a pas contribué à ce qu'il y ait une perte de confiance de vos militants, de la part de vos militants et des Guinéens? Je le dis pourquoi? Parce que le FNDC auquel appartenait l'UFDG avait décidé que ses membres n'iraient pas aux élections présidentielles. Finalement, l'UFDG y est allé et aujourd'hui, on en est à la contestation forte de ces résultats qui paralysent la Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence dans la stratégie de l'opposition face au pouvoir?
Il n'y a pas un manque de cohérence. Alors, analysons ça objectivement sur trois volets. Le premier volet, le président Alpha Condé en 2010, sur la base de la constitution du 10 mai 2010, il a dit clairement, solennellement devant tous les Guinéens, qu'il s'engage à respecter, à faire respecter notre constitution et qu'en cas de parjure, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Et dans cette constitution, il est mentionné noir sur blanc que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, malgré les contestations de l'opposition, malgré plus de 265 Guinéens tués, aujourd'hui, même un semblant de procès, le régime d'Alpha Condé n'arrive pas à organiser pour situer les responsabilités. C'est qu'on a donné culture à nos forces de défense et de sécurité. Tout à l'heure, j'ai écouté M. Keïta par rapport à son intervention. Je dis simplement que mentir au peuple, c'est à la fois le trahir et ne pas le respecter. Ce qui se passe à Ouanizara aujourd'hui se passe de tout commentaire. Ça, c'est la première analyse. Donc, la crise qui existe aujourd'hui en Guinée a été créée et entretenue par Alpha Condé lui-même parce que les textes en Guinée, la constitution en Guinée, ne l'autorisait nullement à se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, madame, Alpha Condé demande aux Guinéens d'oublier le passé. Mais comment on peut oublier le passé lorsqu'on a commis des exactions dans des zones de l'opposition? Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la commune d'Oratoma, supposée être comme fief de l'opposition, aujourd'hui on a donné cultus à nos forces de défense et de sécurité de violenter, de tuer nos concitoyens. Je rappelais tout à l'heure qu'on est à 265 Guinéens tués, même un semblant de procès Alpha Condé n'arrive pas à organiser. Quand vous venez aujourd'hui à Ouanizara, on a tué même un enfant de 2 ans. Le matin, la zone ressemble plus à une zone de guerre. Vous ne pouvez pas, commettre des exactions dans les fiefs de l'opposition. Vous ne pouvez pas maltraiter vos opposants. Vous ne pouvez pas les amener en prison, les humilier. Le cas de Roger Bamba est une illustration parfaite. Et le jour au lendemain, demander à un dialogue.
Monsieur Konaté, d'accord, si vous rappelez tous ces faits qui sont malheureux, évidemment, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas avancer? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver les ressources? La classe politique n'est pas à un moment donné contrainte de chercher les ressources en elle-même pour pouvoir surmonter ce passé et avancer?
Les Guinéens sont unanimes aujourd'hui que le problème en Guinée, c'est bien Alpha Condé. Ce troisième mandat est illégal. Il ne devrait pas l'avoir. Au prix de nombreuses vies
sacrifiées,
Alpha Condé s'est accompli.
Il ne devrait pas l'avoir, mais une fois qu'on vous a dit au sein du FNDC de ne pas aller à cette élection pour l'aider à valider son élection, vous y êtes allé. Donc,
Écoutez, madame. L'opposition, depuis 2013, a manifesté dans ce pays-là pour qu'on puisse avoir un fichier électoral consensuel. Vous savez qu'en matière d'organisation d'élections, l'élément le plus essentiel, c'est d'avoir le fichier électoral. Pour un premier temps, Alpha Condé a cherché d'abord à tronquer ce fichier électoral, tailler sur mesure pour lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir, comment on appelle ça, la majorité des suffrages.
Monsieur Konaté, pardonnez-moi une fois de plus, on doit avancer, mais en allant à cette élection, Alpha Condé le savait, Seydou d'Alain Diallo connaissait toutes ces conditions.
C'est connaissant toutes ces situations-là que l'UFDG a pris des mesures idoines à son sein, des mécanismes réels qui ont permis, n'est-ce pas, d'obtenir les résultats sortis des urnes, n'est-ce pas, dès la fermeture des bureaux de vote.
Selon vous.
Mais vous avez vu, même, regardez, écoutez madame, je vous donne juste l'exemple d'une préfecture de Doubrecam.
Très vite.
Il est là. Les forces de défense et de sécurité, dans les quartiers où ils n'ont pas gagné, à 18h, avant même le dépouillement, ils sont allés prendre les urnes. Les procès-verbaux ont été falsifiés. Malgré tout ça, Seydou d'Alain Diallo a remporté ces élections-là. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut aller à un dialogue pour discuter de quoi.
Monsieur...
Nous disons simplement que nous sommes disposés à dialoguer avec Alpha Condé à une seule condition. La condition, c'est sous l'égide de la communauté internationale, faire un récomptage pour donner...
Merci beaucoup. Je l'ai rappelé aussi tout à l'heure. J'ai bien résumé vos propos tout à l'heure, monsieur Konaté. Monsieur Silla, vous m'entendez?
Oui, allô.
Quel est l'avenir aujourd'hui en Guinée avec ce qu'on observe? On assiste aussi à des difficultés de plus en plus fortes de l'opposition à mobiliser. Il y a eu des appels à la ville morte, des appels à manifester, même le jour de l'investiture, le 15 décembre dernier. Ça n'a pas été suivi. Et l'opposition est aujourd'hui un peu, je veux dire, à la croisée des chemins. Le représentant du RPG, parlait de Mokhtar Diallo ou d'Aboubacar Sylla, des anciens de l'UFDG qui ont rejoint le pouvoir. On parle même peut-être de l'entrée au gouvernement du docteur Faya Milimono, du Bloc libéral et membre du FNDC. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition peut encore continuer à choisir les manifestations comme mode de contestation?
Vous savez, je suis très pessimiste pour mon pays. Parce que les dirigeants actuels ont insinué quelque chose dans notre pays, divisé pour régner. Et la Guinée n'a jamais été comme ça. Pendant les règnes de Lansana Conté, on avait dit que ce n'était pas un président qui était inscrit. Maintenant, Alpha Condé, ils disent que c'est un professeur. Il a divisé les Guinéens. Les gens se regardent anciens de faillance. Je suis très pessimiste pour notre pays. Et la politique guinéenne, franchement, Alpha Condé vous a donné le dégoût. Il est tout sauf un démocrate. Je vous dis la vérité. Sinon, lui, il ne pouvait pas se permettre de modifier la constitution de 2010.
Monsieur Konaté, on doit avancer, s'il vous plaît. Ça a été fait. Il a modifié. Il est allé aux élections. L'UFDG y est allé aussi contre les consignes du FNDC. Aujourd'hui, on est à un carrefour. Qu'est-ce que vous faites en Guinée? Vous continuez à aller dans la voie de la violence, de la tension qui empêche le développement du pays, ou vous vous dites, il faut faire quelque chose? Vous dites, vous êtes député. Oui, on comprend. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Vous savez ce qui va se passer dans les jours, dans les années qui vont suivre? Alpha Condé mettrait toute son énergie pour sauvegarder son pouvoir. Ou son entourage mettrait toute l'énergie pour sauvegarder leur pouvoir. Et le développement de notre pays va mettre de côté. Donc nous sommes pessimistes. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est pour refaire les élections. Ils s'est entêté.
D'accord, vous dites que vous êtes pessimiste, mais je venais de rappeler que l'opposition, l'UFD, votre leader, Sidya Touré, a été haut représentant. On ne sait ce que ça a coûté pour votre parti, l'UFR. L'UFD aujourd'hui a perdu certains de ses membres. Est-ce que vous allez continuer aussi à regarder le pouvoir débauché dans votre camp, ou alors vous allez vous dire, il est temps d'arrêter tout ça et discuter?
Mais non. Mais les gens qui sont partis, ils sont partis au manchoir. C'est leur affaire. Nous, on avait décidé de ne pas participer à cette mascarade d'élection parce qu'il n'y a pas de vérité dedans. Nous souhaitons que dorénavant, on organise une élection, que tous les Guinéens participent et tous les partis politiques désireux de participer à ces élections participent dignement et honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté actuellement en Guinée. Alpha Condé, ils s'en foutent des Guinéens. Et ils se moquent éperdument de nous.
D'accord.
Donc, nous, on ne peut pas le suivre dans ce cadre.
D'accord. Ce que je cherche, ce que j'attends de vous, messieurs, c'est que vous proposiez des solutions pour sortir votre pays de l'impasse politique. Et nous allons à nouveau marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la conclusion de ce débat consacré à la Guinée.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite et fin de ce débat sur la crise politique en Guinée. Quelle sera l'attitude de l'opposition et du pouvoir après l'investiture du président Alpha Condé pour un troisième mandat à contester? Nos invités sont en ligne. Sekou Kelletisila, membre de l'UFR ici en France, Soumeilou Konaté, membre du bureau exécutif de l'UFDG, et Karamo Nabé, coordonnateur du RPG à Conakry. Et je veux m'adresser à vous, monsieur Soumeilou Konaté. Pendant que la classe politique se bat, la pauvreté progresse dans votre pays. Le PNUD parle d'environ 80% de la population active en Guinée et qui est au chômage. Et la Banque mondiale, elle, précise que le taux de chômage dans le pays est de 3% en 2019. Et la Guinée figure au 174e rang mondial selon le classement du PNUD en matière 2019, hein, je le précise, en matière d'IDH, d'indice pour le développement humain. Quand vous voyez ces chiffres qui vous rappellent la réalité que vivent, le quotidien que vivent les Guinéens, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas il faut que chacune des parties mette de l'eau à son vin et puis qu'on puisse se concentrer au développement du pays?
Écoutez, madame, on a dit tout à l'heure quelque chose qui n'est pas vrai, que l'opposition n'arrive pas à manifester en Guinée. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Alpha Condé a militarisé totalement la ville de Conakry. Quand vous prenez aujourd'hui la commune de Ratoma, une des zones réputées être fief de l'opposition, vous comptez plus de 35 pick-up de la police, de la gendarmerie, des bérets rouges. Et c'est des gens à qui on a donné cutis pour tirer à bout portant sur les citoyens. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a plus de 265 Guinéens qui ont été tués par balle, je vous en prie. D'accord. Pour qui on n'arrive pas à organiser ne serait-ce qu'un semblant de
ceci
procès.
Dit,
nous
ma
nous
question...
disons ça, nous disons en 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé, on a remarqué trois choses. Premièrement, c'est l'exclusion. Le président Alpha Condé, avant même, comment on appelle ça, sa prétendue victoire en 2010, il a dit à tout le peuple de Guinée que quand il va arriver au pouvoir, il va faire en sorte que la primature durant tout le mandat soit pour la basse-côte, que le père soit, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée appartienne à la forêt, en oubliant une grande partie de la Guinée qui est le Fouta. Donc il est arrivé au pouvoir dans
le Fouta, la région de Sélou d'Alain Diallo.
De Sélou d'Alain Diallo, dans le seul but de pouvoir diviser les Guinéens pour régner. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient du système, les Keta qui sont en train de parler aujourd'hui, c'est ceux-là qui bénéficient du système, c'est ceux-là.
D'accord.
Qui sont
revenons
en train
à ma question,
de
monsieur, on est en train de conclure l'émission pas, très vite, s'il vous plaît, sur ma question concernant le développement qui est la priorité des Guinéens qui veulent passer à autre chose et qui souhaitent un peu plus de stabilité et qu'on pense à ce qu'ils vivent au quotidien.
Écoutez, madame, l'UFDG est un parti démocratique. On n'a pas besoin d'expliquer ça à un Guinéen que celui d'Alain Diallo, c'est un homme de consensus, c'est un homme de dialogue. C'est pourquoi plusieurs fois les gens de la mouvance présidentielle lui ont traité même de naïf, entre guillemets. Nous sommes disposés à dialoguer dans ce pays. Mais pour dialoguer, il faut avoir du contenu. Pour nous, le seul contenu qui est valable aujourd'hui, c'est sous l'égide de la communauté internationale, faire un recomptage de voix. Si Alpha Condé est sûr qu'il a gagné les élections, il n'a pas opposé un refus.
Si, donc, si j'ai bien compris, vous continuez même avec la question sur le développement, que vous êtes sur la bonne voie, vous allez continuer à manifester et que les 6 années à venir de pouvoir de Alpha Condé pourraient ressembler aux 10 précédentes.
Madame, écoutez,
c'est-à-dire faites de violence, de manifestations,
toute la classe politique d'opposition, toute la classe politique d'opposition, sans exception, est soucieuse de l'avenir de cette nation. Mais que voulez-vous? Lorsque vous avez un président de la République qui encourage la corruption, n'est-ce pas, qui permet à une minorité de Guinéens de s'accaparer du trésor public de notre pays, de faire ce qu'ils veulent. En Guinée aujourd'hui, le scandale qui est à la une, c'est le détournement de plus de 200 milliards de nos francs. On n'arrive même pas à poursuivre les intéressés.
Merci.
Le problème, ce n'est pas nous. C'est celui qui a géré le pays en 10 ans et qui a poussé des milliers de familles à la précarité pour satisfaire des ambitions démoniaques.
Merci.
Nous disons encore une fois que nous allons rester mobilisés pour les Guinéens, pour faire en sorte que la Guinée soit un pays de démocratie, un pays de liberté, mais aussi un pays qui émerge. Pour
monsieur,
que cela
monsieur
soit,
Nabé,
il faut totalement
monsieur Nabé, en quelques mots, s'il vous plaît,
c'est lui le problème de la Guinée.
En quelques mots. Monsieur Nabé, on l'a perdu, monsieur Nabé. Monsieur Konaté, monsieur Silla, vous êtes là?
Je suis dans.
Vous-même, vous avez passé le temps à rappeler aussi que, voilà, à dire tout le mal que vous pensez de Alpha Condé. Aujourd'hui, quel sera l'après-discours de Alpha Condé? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, malgré tout, qu'on puisse assister à un apaisement de la classe politique en Guinée?
Ben, franchement, il n'y a pas de lueur d'espoir de ce que Alpha Condé dit. Parce que si un enfant a confiance à son père, et si son père commence à mentir à son enfant, il n'aura plus confiance en lui. Moi, j'ai plus confiance en Alpha Condé, pour être clair avec vous. J'ai plus d'espoir que Alpha Condé, s'il dit qu'il va développer notre pays, mais c'est mensonge, pur et simple.
Mais que faire de l'aspiration, des aspirations du peuple guinéen?
Mais les Guinéens aspirent aujourd'hui qu'on reprenne toutes ces élections, toutes ces mascarades d'élections qui ont été perpétrées à leur insu, qu'on reprenne, et que les partis politiques désirent de participer à ces élections participent dignement. Et Alpha Condé, il a 82 ans, qu'il prépare sa valise, qu'il quitte dans notre pays. Merci. C'est tout ce qu'on nous demande.
Qu'il parte en exil.
Il part en exil. Il est français, il n'a qu'à venir en France s'installer. C'est qu'il... Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Alpha Condé dit que Boké, c'est une zone économique spéciale. Ce qui se passe là-bas, ça passe de commentaires. Et tout passe. Tout passe dans l'informel. Les Chinois achètent la terre dans leurs camions.
Pardon, mais monsieur Silla, je vous interromps. On n'a plus qu'une minute à donner à notre invité, monsieur, à l'autre invité, monsieur Nabé, qu'on avait perdu tout à l'heure. Monsieur Nabé, pour conclure, les 6 années s'annoncent encore difficiles quand on écoute les opposants ici.
Non, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, moi je comprends bien la frustration de M. Keleti, de l'UFR et de l'UFDG aussi, parce que ce sont des gens qui savent aujourd'hui, l'UFR n'a pratiquement plus de militants. Vous avez parlé tout à l'heure de débauchage, en réalité il ne s'agit pas de débauchage, parce que les gens ont compris que ces deux leaders-là n'ont pas de projet politique, et que leur seul
intérêt... Vous allez aussi enrôler le leader du Bloc libéral qui était présent à l'investiture de
Alpha
Condé?
Oui, bien sûr. Le leader du bloc, libéral était présent. Dr Ousmane Kaba, qui était un farouche opposant, était présent. Il y a beaucoup d'autres opposants aussi.
Donc Faya Mili-Mino va bientôt entrer au gouvernement?
Je ne sais pas. Ce n'est pas le RPG qui compose le gouvernement, c'est le président de la République. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République a tendu en tout cas la main à tous les opposants. Et tous les opposants qui sont prêts à travailler pour le progrès de la Guinée pourraient éventuellement faire partie du gouvernement. Et comment dirais-je, ce que je voudrais aussi rappeler très rapidement en fait à ces deux personnes, à ces deux confrères, c'est que l'histoire de la Guinée n'a pas commencé que récemment. Vous savez, Alain Foucault aime dire que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Parce que si on doit vraiment revenir en arrière, il faudra revenir jusque dans les années 58, quand l'indépendance de la République de Guinée a été obtenue.
Merci.
Il y a eu des violences, il y a eu des violences
secondes.
En 1984, en 1985, il y a eu des violences récemment, même sous, en tout cas, le mandat, quand il était aussi Premier ministre de l'Algérie, Sédou Dalein Diallo. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de mettre justement tout ça derrière, comme le président de la République l'a dit, pour mettre la Guinée en avant, pour que tout le monde sache qu'au-delà de tout, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise.
Merci.
Les leaders doivent comprendre ça et accepter la main tendue du président pour, s'il le faut, faire partie du gouvernement et construire la Guinée ensemble.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la Guinée en pleine crise politique née du troisième mandat du président Alpha Condé. Merci à vous. Bonsoir.